Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
7h45 sur France Culture. Régis Debray, bonjour. On vient de parler d'histoires ratées. Vous publiez justement Bilan de faillite chez Gallimard où il est question de beaucoup d'histoires ratées. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire par exemple que l'histoire de la gauche, selon vous, c'est une histoire ratée ?
Oui, mais il n'y a pas de honte à cela d'abord. Mais écoutez, si la gauche visait à la mise en commun, l'entraide, la solidarité, oui, c'est une histoire ratée, puisqu'aujourd'hui, on voit le triomphe de l'individu et de l'argent. Maintenant, ce n'est pas une histoire ratée dans la mesure où on peut dire que les libertés gagnent, mais elles peuvent gagner jusqu'à nous faire perdre, c'est-à-dire elles peuvent gagner jusqu'à provoquer un tout à l'ego et un effondrement du collectif. Donc, oui, mais vous savez, en politique, les choses vont toujours mal. Et donc, il ne faut pas s'obnubiler sur tel ou tel ratage immédiat. Moi, ce sont les procédures de l'échec qui m'intéressent. Voilà. Quant à l'échec, ça ne me fait pas peur. D'abord, ça enseigne l'humilité, ça apprend le temps long, c'est-à-dire ça donne une certaine lucidité. Ça peut donner une certaine âcreté aussi. Alors là, il faut faire attention. Il faut mettre un peu d'alacrité dans l'âcreté. Il faut mettre un peu d'allégresse dans le désespoir. Ou alors on devient chagrin, ce qui est vraiment abominable.
Bilan de faillite, c'est la lettre que vous adressez à Debray Antoine, votre fils de 16 ans. Vous improvisez pour lui conseiller d'orientation dans une époque déphasée. Et alors vous lui dites, voilà, jadis, nous avions de grandes ambitions, nous avions de grandes causes avec un grand C. Et puis aujourd'hui, vous n'avez plus de héros. Et moi, en ce moment, je ne vois que des héros dans l'actualité. Par exemple, celui-ci, Mamoudou Gassama, ce Malien qui a sauvé un enfant samedi à Paris. Il a été reçu hier par le président Macron qui a annoncé vouloir le naturaliser.
Je me suis couru, il est arraché la route pour aller le sauver. J'ai marché, j'ai le sauvé.
Et donc, sans réfléchir, comme ça, vous êtes...
Mais je n'ai rien réfléchi de moi, voilà. Je me suis monté directement et Dieu merci, Dieu m'a aidé aussi. Quand j'ai commencé de monter, ça me fait le courage de monter de plus encore, voilà.
Et il était comment, le petit, quand vous l'avez...
Bon, il est en train de pleurer, voilà. Il est blessé encore, là, son pied, voilà, il est blessé un peu.
Et vous l'avez revu ?
Oui. Voilà.
Bravo.
Merci.
Contrairement à ce que vous écrivez, Régis Debray, l'héroïsme est très présent en France.
Non, je crois que vous faites erreur, ou nous faisons erreur sur le mot. Il y a toujours des types bien, vous savez, à quelque époque que ce soit. Mais prenons le mot héros au sens fort, celui que lui donnait Hegel. Le héros, c'est l'homme d'affaires du génie de l'univers, c'est-à-dire celui qui incarne l'esprit de son temps, celui en qui on peut se reconnaître. Et le temps a changé d'esprit, si vous voulez. La musique du temps change et n'est jamais la même d'un siècle à l'autre. Le héros, c'était le politique du temps où, disait Napoléon, la tragédie, c'est la politique. Aujourd'hui, la tragédie, c'est l'économie. Et donc, il y a d'autres héros. C'est-à-dire, pour moi, les héros de notre temps, c'est Mark Zuckerberg et Stéphane Bern. Parce que ce sont eux les ingénieurs des armes. Ce sont eux qui fixent l'idéal type, le mythe d'identification.
Je ne sais pas développer, puisqu'il y a parmi ces deux personnages, donc l'un est patron de Facebook, l'autre, Stéphane Bern, est animateur de radio, de télévision et chargé d'une mission en faveur du patrimoine. Le patrimoine, normalement, ça vous va au cœur, Régis Debray.
Oui, mais pourquoi j'en parle ? Parce que les maîtres des tuyaux et les maîtres de l'image sont aujourd'hui ceux qui nous donnent de l'émotion. Ce ne sont plus les politiques ni les écrivains. Le temps où un texte pouvait peser sur le cours des choses a changé. Nous sommes passés, si vous voulez, de la page d'écriture à l'écran. Et donc aujourd'hui, agir sur les âmes, se faire voir et se faire entendre. Ce n'est pas se faire lire. Donc, voilà, vous parliez de faillite.
Non, c'est vous, c'est votre titre.
Oui,
plan de faillite.
C'est mon titre, effectivement. D'abord, une faillite n'est pas toujours une catastrophe, c'est simplement une prise de conscience, c'est oser enfin être vrai. Ce qui advient généralement quand on n'a plus beaucoup de lendemain, c'est-à-dire quand on peut faire le point rétrospectivement. Vous savez, un homme jeune, c'est comme un romancier, il a beaucoup de personnages. Il s'éclate en de multiples vies. Et puis à un moment donné, à la fin de la vie, on est bien forcé de faire le compte. Sauf à devenir un impresario de soi-même et faire sa promo. C'est pas mon genre. Donc voilà, j'ai simplement pris acte du fait que les idéaux, plutôt la vision de l'avenir que j'avais il y a 50 ans... Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a foiré, si vous me permettez la vulgarité.
Bon, mais alors finalement, vous donnez raison à Emmanuel Macron quand vous dites, par exemple, les grands textes ne portent plus, lui dit des intellectuels qu'ils font du bruit avec de vieux instruments.
Oui, moi je ne fais plus de bruit parce que j'ai un clavecin dans une rave partie, vous voyez. Alors, faire du violoncelle à côté de heavy metal... ça marche pas vraiment.
Non,
c'est
mais
pourquoi
là, vous
je
êtes
me
au
suis
micro.
Déclaré. C'est pourquoi je me déclare, et c'est le sens du mot faillite, en chômage technique.
Non mais attention, vous vous en tirerez pas avec une pirouette. Emmanuel Macron ne vous reproche pas d'essayer de couvrir le bruit de la rave party. Il dit juste que les commentaires, parfois acerbes, que vous avez pu faire sur sa politique, ne le touchent pas et surtout ne le concernent plus.
Il a raison. Il a raison, ça ne concerne plus du tout la France Business. Ce que je peux écrire ne concerne pas du tout Las Vegas, les réunions telles que Choose Friends ou Tech for Good. Il y a là, l'univers de l'entreprise auquel je m'avoue étranger. Mais j'avoue aussi que... Je ne commente pas la politique immédiate, je n'ai jamais rencontré Monsieur Macron, et j'essaye d'avoir un peu plus, si vous voulez, de recul historique.
Oui, mais justement, lorsque, par exemple, vous avez avoué votre flamme pour De Gaulle, ce qui n'était pas évident, puisque vous ne venez pas a priori du gaullisme, mais plutôt du gauchisme, Régis Debray.
Jamais. Je n'ai jamais été gauchiste de ma vie. J'étais un homme de gauche. C'est très différent.
On va en reparler tout à l'heure. Mais d'accord. Restons sur le gaullisme un instant, si vous le voulez bien. Et lorsqu'on constate aujourd'hui que ce gaullisme, ce personnage de De Gaulle que vous avez loué, il est aujourd'hui une sorte de point commun, à tort ou à raison, dans la classe politique française, y compris d'ailleurs chez Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Écoutez... Nous avons besoin de mythes d'identification. Et il est vrai que De Gaulle marque une sorte de point culminant, j'allais dire. C'est le dernier moment littéraire de notre vie politique, si vous voulez. Ou alors, si vous voulez, le dernier moment politique de notre vie littéraire. En quel sens ? De Gaulle était un écrivain, un grand liseur, mais surtout c'était un homme pour qui Charles n'existait pas et qui a toujours subordonné ce que j'ose appeler sa carrière, un vilain mot, mais il a toujours subordonné à une idée plus grande que lui, qui était celle de la France et du rôle de la France dans le monde. Donc je crois que c'est un exemple à la fois d'abnégation et de lucidité, c'est-à-dire une vision à long terme et une certaine indépendance vis-à-vis de l'opinion et surtout une grande indépendance vis-à-vis de l'argent. Donc je comprends que tout ça, je dirais, aujourd'hui fait contraste et donc on a envie de s'y référer. Alors est-ce que c'est un alibi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très heureux que cette référence soit faite.
Une grande lucidité, vous exagérez, parce qu'il n'a fait que mentir aux Français, il nous a fait croire que nous avions gagné la guerre, il nous a fait croire que la France n'était pas en France pendant la période troublée de 39 à 45, puis il nous a fait croire qu'on était indépendant. C'est ça en fait que voulait un grand raconteur d'histoire, Régis Debray ?
Vous savez, il faut se raconter des histoires pour faire l'histoire. Celui qui fait l'histoire doit rêver et faire rêver. Et outre que De Gaulle vous a évité à deux reprises la guerre civile, hein, je veux dire en 45 et en 58. De Gaulle a toujours eu une idée très prémonitoire des choses. Rappelez-vous, il appelait l'Union soviétique la Russie. Jean-François Revel se moquait de lui, il trouvait ça très ringard. L'Allemagne de l'Est, il l'appelait la Prusse. Autrement dit, pour lui, les régimes passent et les peuples restent. Je crois que c'est une très juste vue. Il avait compris que les civilisations sont des œuvres de longue durée et il s'est toujours inscrit dans ce temps long. Donc, si vous voulez me dire que De Gaulle, je ne dirais pas qu'il a menti, il disait « j'ai toujours fait comme si hein ». C'est formidable ça, faire comme si. S'il n'avait pas fait comme si, nous avions gagné la guerre. Comme si la France avait été unie dans la résistance. Je crois que la France n'aurait pas pu reprendre son rang et que les Français auraient eu une dépression profonde. Certains peuples ne sont pas sortis de cette dépression. Autrement dit, animer un imaginaire, c'est gouverner une action. Et il avait ce sens-là. Il savait que c'est le mythe qui fait avancer. Voilà. Et il peut devenir vrai, si vous voulez, à la longue. Non, je crois que... enfin, écoutez, chacun sait que c'était un personnage d'exception qui a rendu à la France sa souveraineté.
Lorsque vous écrivez à votre fils de 16 ans, Régis Debray, vous dites que finalement, le destin aujourd'hui de la plupart des individus, le destin rêvé, c'est de devenir, je vous cite, le Chief Happiness Officer de Google, autrement dit, une sorte d'agent d'ambiance, mi-cadre, mi-géo du club méditerranéen. C'est effectivement une époque moins héroïque, mais est-ce que le doux commerce n'a pas des avantages par rapport au XXe siècle qui a quand même été un siècle où l'on a bien vu les conséquences fâcheuses de l'héroïsme?
Écoutez, le doux commerce, ça a des limites, notamment dans les colonies. Les grandes métropoles libérales que vous aimez bien déversent sur... leur colonie ou leur néocolonie, de monstrueuses violences. Par ailleurs, ce que je veux simplement dire, c'est que nous avons vu, depuis quelques décennies, grandir, monter, finalement dominer Homo economicus, l'homme économique. On parle même d'une économie du bonheur aujourd'hui, et on mesure le bonheur aux chiffres des revenus de tout un chacun, c'est-à-dire même les économistes aujourd'hui sont les arbitres de nos vertus ou de nos bonheurs. Avouez que pour un Français grandi dans l'idée qu'il y a un primat du politique, tout ça est un peu déconcertant. En tout cas, mon sentiment est que nous avons changé d'univers, si vous voulez, et j'allais dire de civilisation, dans la mesure où l'Amérique est là pour nous suggérer, voire nous imposer sa hiérarchie des valeurs. Voilà. Donc, est-ce que dire cela, c'est se décourager? Non, dire cela, c'est prendre le... par les cornes.
Vous l'aviez évoqué dans Civilisation, comment nous sommes devenus américains, en quoi la France s'est-elle convertie à un autre type d'anthropologie américaine, Régis Debray, expliquez-nous.
Camus évoquait la hideuse aristocratie de la réussite. Aujourd'hui, c'est la réussite économique, financière, commerciale, qui fixe, je dirais, l'ordre de nos valeurs. Et en Amérique, où d'ailleurs se créent toutes les nouvelles technologies qui nous informent de l'intérieur, qui nous moulent, qui nous servent de matrice, ben il est normal que ces nouvelles technologies nous imposent leur priorité. Et la priorité, c'est le primat de l'économique. Voilà. Et ça, c'est une chose qui n'était pas... dans notre tradition, qui nous vient de ce que Elifort appelait un formidable foyer d'énergie, de brutalité. Il définissait ainsi
Elifort, l'Amérique
du Nord dès les années 30. Je vous rappelle que Jean Zay, en 1939, qui s'était ministre, rendu aux États-Unis, avait dit « l'axe de civilisation a changé ». Eh ben oui, l'axe a changé. Mais il change tout le temps, c'est pas grave.
On va voir à partir de quand, selon vous, Régis Debray, l'axe de civilisation a changé. Est-ce que cela a débuté en mai 68? Vous nous raconterez votre mai 68. Alors, vous n'avez pas participé au mai 68 officiel, parce que vous aviez un empêchement personnel. On en reparlera d'ailleurs dans quelques minutes. On a retrouvé un extrait de votre voix durant cet empêchement personnel, puisque vous étiez emprisonné en Bolivie.